2016 et 2019 au CRA de 7 et de 20 peines. Je laisserai expliquer au collectif et à toi ce que c'est un CRA et en quoi ça consiste et pourquoi il faut lutter contre. Je ne sais pas qui veut commencer.
Je vais prendre la parole juste deux petites minutes. Déjà pour vous dire qu'on enregistre la soirée pour que ce soit rediffusé après sur disjoncté.info. Voilà, c'est juste pour vous prévenir que les interventions et les lectures seront enregistrées. Voilà. Et aussi pour vous dire que nous, on est très contents de pouvoir être là et que c'était une belle opportunité pour nous de pouvoir présenter la lutte anti-CRA de Dijon qui a commencé, on a commencé un peu à en parler à partir du mois de décembre, janvier, avec une première AG au mois de février. Et en fait, ça nous a semblé important de pouvoir venir ici parce qu'on sort un peu de notre environnement militant de d'habitude. Et que l'idée, c'est vraiment d'aller informer le plus possible les gens qui ne sont pas forcément dans nos réseaux à nous, qu'on a l'habitude de toucher. Et vraiment de pouvoir aller chercher le plus d'alliés possible le plus dans une périphérie, un périmètre voilà, le plus grand possible parce que ça nous semble vraiment important de pouvoir déjà mettre au courant les gens et puis aussi de pouvoir compter sur de possibles alliés pour des prochaines manifestations, des prochains rassemblements et qu'on ne s'attend pas à ce que tout le monde rejoigne la lutte anti-CRA mais qu'en tout cas que les gens puissent en parler autour d'eux, faire circuler l'information et si jamais à un moment on a besoin de mobiliser des gens pour une vraie journée de manifestation etc. et de mobilisation, on sait que les gens pourront être là quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était important de pouvoir venir ici. Et ensuite, le livre de Mathieu nous a semblé particulièrement pertinent parce que, justement, il a fait cette démarche d'aller à la rencontre des personnes qui sont séquestrées et que pour nous, c'est important de pouvoir relayer cette parole et que c'est un très beau médium. Du coup, voilà, c'est... Je vais juste te lire un petit extrait de ce qu'a écrit l'éditrice parce que ça parle de lui-même. Juste dire que du coup, attendez, qu'il faut continuer à questionner toutes les fragiles. Alors, attendez. À la différence. Ah non, Mathieu Gravard fait un montage des voix elles-mêmes, donc des émotions avec toutes les fragilités que cela suppose. L'objet ici n'étant pas de faire un parallèle avec la Shoah, parce qu'elle parle d'un autre livre où il y a eu des paroles de personnes qui ont été dans des camps de concentration, mais de continuer à questionner et surtout de faire entendre ce qui se vit à l'intérieur des CRA par le biais des personnes qui y sont séquestrées. CRA est un cri d'alerte, une veille démocratique dans la longue nuit administrativo-technocratique française. Faites circuler. Je pense que ça résume bien pourquoi on est là ce soir.
Juste, excuse-moi. Oui. C'est une petite parenthèse, mais quand tu parles de la Shoah,
oui.
C'est pas des camps de concentration, c'est des camps d'extermination.
Oui, pardon.
C'est tout.
Oui. Alors le parallèle était fait en fait parce que c'est bien, on rentre dans le truc en fait. En gros, je me suis inspiré moi pour réaliser. Ce livre d'un texte de Charles Reznikov, qu'un juif américain new-yorkais qui a fait un livre extraordinaire qui a fait deux livres extraordinaires. Il y en a un, c'était Témoignages, et l'autre, c'est Holocauste. Et en fait, il a repris les procès-verbaux des procès Eichmann et des procès de Nuremberg 10-15 ans après l'Holocauste. Et il a fait un livre, en fait, en reprenant juste ses procès-verbaux, en fait, Holocauste est un livre, en fait, de montage, où il a rien ajouté, il a juste pris ça, il a fait une sélection, un montage, joué sur la ponctuation, la mise en scène, il a utilisé son savoir-faire poétique pour transcrire et retranscrire l'Holocauste à travers ses procès-verbaux, et... c'est très très brut, ça fait vraiment... Enfin, c'est très fort. Et bref, moi, quand il s'est agi de savoir ce que j'allais pouvoir faire avec mon écriture pour la lutte contre les CRA, j'ai repris, on va dire, je me suis inspiré du livre de Charles Reznikov. C'est pour ça que l'éditrice qui en parle dans sa préface, dit que il ne s'agit pas de faire de parallèle avec la Shoah, etc. Mais voilà, pour resituer le contexte.
Est-ce que tu veux parler de ton livre ?
Ouais. Ouais, ouais. Donc, ce que je propose, je vais en fait, il y a deux petites notes courtes d'introduction qui ouvrent le livre. Donc, je vais vous les lire en... Vu que c'était en 2019, il y a des choses qui ont un peu changé, du coup, à l'oral, je vais juste modifier deux, trois trucs. Et ensuite, il y avait comme proposition...
On proposait que... Parce que du coup, le livre est fait de courts extraits, enfin de courts paroles, qui peuvent être de quelques lignes à une demi-page, disons. Et donc, on proposait de faire circuler le livre et que chacun, chacune puisse lire au pif, comme ça, en prenant une... Une page au hasard, lire ce qui tombe sous les yeux et qu'on va circuler un peu dans la salle. Donc, si ça vous va, après la présentation là-dessus.
Donc voilà, donc CRA, 115 propos d'hommes séquestrés. Les zones de séquestration, de tri d'humains, de torture psychologique, de violence policière, qu'on connaît sous le nom de centres de rétention administrative, CRA, ont été officiellement mis en place par l'État français à partir de 1981. C'était sous Mitterrand. Il y en a 28 sur le territoire français. Des personnes non blanches, ne répondant pas aux critères administratifs, y sont séquestrées pour une durée maximale de 3 mois. Ça, c'est depuis janvier 2019, 3 mois. En 2011, cette durée était d'un mois et demi. Et quand ça a été officialisé, les centres de rétention, la durée était de 7 jours. Et c'était en 1980 que ça a été officialisé. Il faut savoir qu'avant que ce soit officialisé, ça se faisait de manière cachée, notamment dans les entrepôts d'Arinc, à Marseille. Et il y a eu tout un mouvement de lutte qui a fait sortir cette affaire. Et l'État, au lieu d'arrêter de faire ça, a simplement officialisé la chose. Donc, durant cette période de séquestration, si la préfecture obtient un laissez-passer consulaire de la part d'un autre pays, en général c'est le pays dit d'origine, eh ben, ils sont déportés. Dans le cas contraire, à l'issue de la durée maximale de séquestration, ou parfois avant, ils sont relâchés. Sachant qu'une fois relâchés, ils peuvent se faire reprendre une semaine plus tard et que parfois des personnes cumulent. Moi, le max que j'ai rencontré, c'est 5 séquestrations en centre de rétention, mais ça peut continuer, quoi. Donc, concernant les méthodes, donc tout ce qui suit est basé sur des entretiens avec des hommes séquestrés dans les centres de rétention administrative de Vincennes et de Sète. Ces centres étant uniquement destinés aux hommes. Il s'avère que c'est là où j'étais, donc voilà, j'ai rencontré que des hommes. Ça s'est fait donc entre 2016 et 2019. Sur des rencontres à l'intérieur, j'allais à l'intérieur. En fait, il faut avoir le nom de quelqu'un à l'intérieur. Alors ça, il y a des cabines publiques, on peut appeler à l'intérieur par des cabines, demander si la personne peut recevoir une visite, et il faut sa carte d'identité, et on peut rentrer. À savoir que, bon, maintenant, en fait, notamment à Toulouse, ils ont supprimé les cabines publiques. On ne peut plus rentrer en contact. Donc, il faut, pour avoir les numéros, c'est un peu plus compliqué. Pour avoir les noms, en fait, et les voir. Je pourrais préciser plus tard ça. Donc, ça s'est fait aussi donc, dans des rencontres, mais aussi donc, sur place dans les centres de rétention, mais aussi par des entretiens téléphoniques. Avec les personnes à l'intérieur, mais aussi parfois leurs compagnes ou de la famille proche. Ça s'est fait donc à partir d'enregistrements audio. Quand je pouvais rentrer avec un enregistreur. Mais c'est à la discrétion de la police. La police décide sans justifier ce avec quoi on peut rentrer ou pas. Parfois avec rien du tout. Donc parfois, c'est des notes prises pendant les entretiens, stylo-papier, mais parfois même le stylo et le papier n'étaient pas possibles. Donc ça s'est fait après, de mémoire après. Je précise avant qu'on commence la lecture collective que j'ai réparti le livre en trois parties. Une première partie qui est la partie arrestation, la deuxième partie qui est la partie séquestration et la troisième partie déportation. Voilà. Donc si vous voulez, on peut commencer la lecture. Comment on fait? On fait tourner, le livre?
Ok. Si vous vous sentez lire, hein, c'est pas une obligation. J'essaie d'ouvrir au hasard et si vous avez envie de lire.
Allez. On peut faire tourner plusieurs livres.
Oui,
plusieurs
livres. Oui.
Quatre jours de grève de la faim. L'infirmière a pris l'attention. Je ne bouge pas de ma chambre. Hier, j'ai bu un peu d'eau. Au rassemblement devant le CRA, demain, mon oncle va venir et mon cousin. On est 11 dans le sac. Pas encore de prise de sang. S'il ne me ramène pas à l'hôpital, je tiens encore 2-3 jours. J'espère que je ne serai pas mort encore. Déjà que j'ai des problèmes de cœur. Même le dos, il est froid. Il est bizarre. J'ai l'habitude de manger tous les jours. C'est dur. Déjà, R, il ne bouge plus. Hier, un collègue, il l'a porté pour la visite des enfants. Hier, il s'est tapé la tête contre la porte. Il est gonflé. La décision du juge, ça me choque. Qu'il décide sans parler. Franchement, j'en ai marre d'aller au tribunal comme ça, pour rien. Même l'avocat, il fait des efforts pour rien. Le juge, il laisse pas. Il laisse pas. Il laisse pas. De toute façon, c'est ma dernière solution à la grève de la faim. Je mangerai plus. On croise les doigts.
À 6 heures du matin, chez moi, je me réveillais pour aller au lycée. Je demande « C'est qui ?» Ils disent « C'est moi, c'est les éducateurs. » J'ouvre la porte. C'était la police avec eux. Ils m'ont dit que c'était parce que j'étais dans une situation irrégulière, que j'étais pas mineur. Je suis mineur. J'ai fait 3 mois de prison et je suis arrivé là.
Ici, il y a un policier qui fait peur. Des fois, on regarde la télé et il éteint la lumière. Il nous interdit de prendre de la nourriture avec nous dans les chambres. Il parle mal. Il est violent. Hier soir, il criait « Garde à vue ! Garde à vue !» et il rigolait. On n'arrivait pas à dormir.
Une fois, je vais monter pour manger et le policier me dit « La tête de con !» pour rien. Il faudrait un peu de respect. On n'est pas des animaux, nous. On est comme vous, on est tous pareils.
Aux toilettes, les petits moustiques, il y en a beaucoup. Les toilettes qui puent. Ils traitent des animaux mieux que nous. Je te jure, ils traitent les animaux mieux que nous. On n'est pas des humains ici.
Il fait super froid, beaucoup de bruit, difficile de dormir. Je stresse beaucoup. Je stresse beaucoup. J'ai plein de stress. Des fois même, je commence à trembler. Je demande des tranquillisants pour dormir. J'en prends 4 par jour.
quand tu manges, tu sens que tu veux dormir. Ils mettent des cachets dedans, des calmants, je crois, pour pas qu'il y ait de bagarre ici, pour calmer les gens. C'est très bizarre, moi quand je mange, je reste en éveil après, toujours, mais pas là. Il y a quelque chose dans la nourriture. C'est pas que moi qui sens ça, c'est tous les prisonniers, tous les gens qui sont ici. Tous les gens, ils sentent qu'ils sont fatigués après manger.
Le mitard, il est tout noir. Il y a un matelas par terre, des toilettes à côté dans la même pièce, des moustiques. Il n'y a pas de fenêtre, et en plus, il y a une caméra qui te regarde tout le temps au-dessus de toi. Ils m'ont mis dedans quand je suis arrivée, en attendant de faire les papiers, et non, et ils ne m'ont pas allumé la lumière.
Le mitard, il est tout noir. Il y a un matelas par terre, des toilettes à côté dans la même pièce, des moustiques. Il n'y a pas de fenêtre, et en plus, il y a une caméra qui te regarde tout le temps au-dessus de toi. Ils m'ont mis dedans quand je suis arrivée, en attendant de faire les papiers. Ils m'ont pas allumé la lumière.
Il y en a un qui est arrivé aujourd'hui. Il veut aussi faire la grève de manger. Tous les gens, ils veulent faire la grève, sauf un, parce qu'il lui reste 7 jours. On refuse de manger, on ne monte pas au réfectoire, on reste dans nos chambres. Tu tombes malade ici, tu vas à l'hôpital, et de l'hôpital, vous êtes libre. Mais tu ne dois pas rester ici en France, parce que déjà, j'ai 1 an de QTF, obligation de quitter le territoire français. Et si je sors d'ici, je peux rencontrer la police pour un contrôle de papier. Et je peux retourner ici vite fait 45 jours.
Les cours ont repris à l'université. Ça fait chier. Ça fait chier, chier, chier d'être là. Je vais être sortie pour les examens. Mais le problème, c'est le contrôle continu. À la sortie, je vais essayer de demander de ne pas être handicapée par les contrôles continus.
Ils nous emmènent dans une pièce, ils éteignent les caméras et ils nous frappent. Moi, ils m'ont mis dans la cellule d'isolement et ils ne m'ont pas frappée. Tous les jours, il y en a un ou deux qui va en cellule d'isolement. Il y a un pote à moi, il s'est fait frapper. J'étais dans l'autre cellule d'isolement. J'entends ce qu'il se passe, ils l'ont frappé bien comme il faut. C'est vrai, il a mal parlé avec lui au début, mais ça ne mérite pas de se faire frapper.
Il me reste 4 jours. Je meurs jusqu'à vendredi, et après, je suis libre.
Toute la journée enfermée, ça me rend fou. Tu n'as rien fait, tu n'as frappé personne, et tu es enfermé.
C'est dur d'être ici avec tous ces gens. Il y en a un qui a avalé les piles de la télécommande pour sortir de là. Hier soir, j'ai pas dormi. J'ai fait des cauchemars. J'ai plus de batterie à mon téléphone. Mais heureusement, il y a un gars de Côte d'Ivoire qui m'a prêté le sien.
Ça va pas ici. Je suis venue en France pour étudier. Je veux sortir, être libre.
Ils boivent. Tous les matins, je les vois passer avec des packs de bière.
Le premier jour où je suis arrivé, ils m'ont traité comme un chien, alors que je viens de sortir de 3 ans et demi de prison pour me rendre fou. Ils ont voulu me montrer, c'est nous qu'on commande. D'accord, je sais, c'est vous qui commandez, il n'y a pas de problème. Ils m'ont mis dans ce parloir où on est assis. J'avais rien à faire. Moi, je connais des rappeurs qui chantent, alors je chante. Ils venaient, ils me regardaient de travers et ils cherchaient la merde derrière la vitre. J'ai un problème au dos. Hier, au tribunal, il y a 2 témoins. Un policier m'a enlevé les menottes. Il m'a dit « Moi et toi, on va se frapper ». Il m'a mis comme ça à la tête. Je lui dis « T'es policier ou ?» J'ai rien compris. Et à la fin, il fait quoi? Il prend son téléphone et il me filme avec son téléphone. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais en colère. Je commençais à l'insulter, à le traiter comme il m'a traité. Alors il a sorti son téléphone pour filmer. Comme ça, lui, il peut avoir raison. Mais ça, c'est pas bon. Moi, je peux te pardonner. Mais là, ce que t'es en train de me faire, ça se fait pas. Moi, c'est pas grave. Je dis c'est rien. Mais j'ai pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre. Imagine-toi, quelqu'un d'autre. Il tombe sur un taré. L'autre, il me dit, jette-le par les escaliers. Pourquoi ? Moi, je te touche pas. Si je t'ai insulté et que j'étais en colère, c'est parce que tu m'as frappé. En revenant du tribunal, ils m'ont mis à l'amende. Ils m'ont mis dans la chambre d'isolement. Pourquoi ? Je t'ai fait quoi ? Je viens du tribunal. Je suis victime de ces mecs. Et encore, tu me mets en cellule d'isolement. Le policier, il dit, toi, on va pas tarder à te faire quelque chose. Le policier d'hier, il m'aime pas. Je lui ai dit, t'es raciste. C'est là où il s'est énervé. Il a dit, ouais, il aime pas les blancs. Comment ça, j'aime pas les blancs? Moi, j'ai grandi avec les blancs au foyer. J'ai rien contre personne. Pourquoi tu me rends encore plus que fou comme ça? Moi, j'ai déjà des problèmes, ma famille. 11 ans que j'ai pas vu ma mère et mon père. Je vous dis la vérité. Je réfléchis des trucs bizarres dans ma tête. Je vous dis, je vais devenir fou. Je vais devenir un mec qui est pas gentil. Je vous jure, je deviens fou. Je deviens fou. Mais j'ai pas envie d'en venir là. J'ai envie de m'en sortir dans la vie. Que ma mère, elle voit que je suis heureux. Que mon enfant, Zarma, il soit trop bien. Moi, je veux travailler. Je veux faire des choses bien.
Avant, on était plus de 25. Maintenant, on est 10. C'est calme. Chaque personne pense à ses problèmes. Fume des cigarettes. On discute. On parle. Le temps, ici. Il passe au ralenti. Il passe doucement. Il n'y a rien à faire. On regarde la rue. On regarde les voitures qui passent. Les gens qui passent. Mais on est enfermé. À 7h50, la police nous réveille. Il crie « Petit déjeuner !» Tu te lèves. Tu manges. Tu te réveilles pas. Tu manges pas. Il crie pareil. Pour le repas, il crie « Le repas, le repas, le repas !» Comme si on était sourd. Comme si on n'entendait rien. Chez les policiers, il y a quelques groupes gentils. Il y en a d'autres, des racistes. La dernière fois, je voulais me connecter avec mon téléphone tactile, qui est dans le casier. C'était important. Normalement, ils me laissent aller seule dans la cabine. Ils me disent, t'as pas le droit. Comment ? Avant, on avait le droit. Maintenant, on n'a pas le droit.
Lors du trajet entre Bordeaux et Toulouse, un policier marocain m'a frappé. Il me tenait fort contre la paroi. Je lui ai dit « Lâche-moi !» Et là, il a pété les plombs et il m'a frappé. Comme j'avais peur, je me repliais, avec mon âge de 48 ans. Me faire frapper comme ça, franchement, j'étais tout replié sur moi et il continuait de me frapper. Il mettait son genou dans mon dos et il me frappait. J'ai déposé plainte, mais comme je la vois, la police, et toute la misère qu'ils font, on ne peut plus faire confiance. Je voulais même retirer ma plainte. À votre avis, je dois faire quoi?
On veut m'expulser, mais aucun pays me reconnaît. Croatie, Serbie, Bosnie. Je suis né en ex-Yougoslavie, je suis parti à l'âge de 2 ans, j'ai pas de pays.
Ça fait 29 jours que je suis enfermé là. Ici, c'est pire que la prison.
Un matin, il entre, il ouvre la porte et il crache dans la douche. Il fait ça dans toutes les douches de chaque chambre. On se regarde, il me regarde, je lui dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et il commence à s'énerver. C'est de l'intimidation. Il y en a qui font les caïds là-dedans. Ce gars, il va pas bien. Et les autres, ces petits, qui font ce qu'il dit, on se croirait dans un film avec le parrain.
J'ai besoin de ma liberté, moi. Déjà, j'étais en Afrique et je viens ici. Jamais je fais une connerie. Jamais je fais un bordel. Je travaille dans le black. J'aide les gens et tout. Des fois dans les snacks. Des fois je fais le ménage, des chantiers, au black. Je ramène les sous. Ma femme mange. Moi aussi, je mange.
Hier ou avant-hier, ils ont coupé l'eau chaude. Après, ils l'ont remise.
Je rentre pas au pays, je meurs ici. Vous faites ce que vous voulez, je rentre pas au pays.
Le gars qui dort avec moi, il a un lit superposé. J'étais en haut et lui en bas. Il avait cramé la cellule et il s'était pendu. À minuit, je regardais le film tranquillement, puis je vois de la fumée qui sort de la cellule. Alors vite, je cours. Je trouve le feu, je le vois pendu, je le soulève, et là, le flic arrive, coupe la corde. Et ils éteignent le feu. Il était en France depuis 18 ans, il a fait 8 ans de prison, je crois. Après ce qui s'est passé, ils m'ont mis à l'hôpital 2 jours, puis en isolement au train. Il a avalé des batteries, ils m'ont remis à l'hôpital, il a repris 6 mois de prison. Lui, il dit, je veux mourir. Comme ça, je vais ailleurs et c'est bon.
Je suis fatiguée. Je ne mange pas. Je demande le médecin. Ils m'ont dit, aujourd'hui, il arrive. Je suis fatiguée. J'ai mal partout. Ça va pas bien. Je fais quoi ?
Je veux pas passer un jour de plus dans ce centre. Je préfère qu'on me renvoie en Suède et en Irak. Vous devez fermer ce lieu. Si vous arrivez à faire que ce lieu ferme, vous commencez à fermer chaque lieu comme celui-ci. On peut rien faire ici. C'est pire que la prison. Pas de sport. On est comme des animaux. Vous devez aider les gens à l'intérieur. Ici, c'est comme être en Irak, en Syrie, ou dans un pays du Moyen-Orient. C'est pas la France. C'est pas de l'humanité. Vous devez alerter les médias sur ce qui se passe. Ici, c'est fermé, c'est secret. Appelez les médias, s'il vous plaît. Ça va pas. J'espère que vous allez fermer ce lieu.
Le premier jour où je suis arrivée, ils m'ont traité comme un chien. Alors que je viens de sortir de 3 ans et demi de prison pour me rendre fou. Ils ont voulu me montrer, c'est nous qu'on commande. D'accord, je sais que c'est vous qui commandez. Il n'y a pas de problème. Ils m'ont mis dans ce parloir où on est assis. J'avais rien à faire. Et je connais des rappeurs qui chantent, alors je chante. Ils venaient, ils me regardaient de travers et ils cherchaient la merde derrière la vitre. J'ai un problème au dos, hier au tribunal. Il y a 2 témoins, un policier m'a enlevé les menottes. Il m'a dit, moi et toi, on va se frapper. Il m'a mis comme ça à la tête. Je lui ai dit, t'es policier ou... J'ai rien compris. Et à la fin, il fait quoi? Il prend son téléphone et il me filme avec son téléphone. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais en colère. Je commençais à l'insulter, à le traiter comme il m'a traité. Alors, il a sorti son téléphone pour filmer, comme ça. Lui, il peut avoir raison, mais ça, c'est pas bon. Moi, je peux te pardonner, mais là, ce que tu es en train de me faire, ça ne se fait pas. Moi, c'est pas grave, je dis, c'est rien. Moi, j'ai pas envie que ça arrive à quelqu'un d'autre. Imagine-toi quelqu'un d'autre, il tombe sur un carré. Autre, il me dit, jette-le par les escaliers. Pourquoi? Moi, je ne te touche pas. Si je t'ai insulté et que j'étais en colère, c'est parce que tu m'as frappé.
Je crois que tout le monde a pu lire, ou à peu près.
Est-ce que vous voulez faire une intervention ou est-ce que je te vois pas du tout. Faut mettre les sœurs là.
Non, on peut peut-être passer aux questions.
Aux questions.
À partir du moment où on identifiera le cas après.
Ok, ça marche. C'est intense. C'est très intense. Je pense que, je sais pas si ça fait le même effet pour vous, mais quand on lit, on voit un peu la dureté des choses. Et comment t'as fait, toi, pour... déjà, comment tu t'es intéressée au CRA ? C'était quoi le point de départ, en fait, de cette réflexion et de cette enquête que t'as menée ?
Moi, au début, en fait, j'avais un collectif de poésie.
Ouais.
Avec des potes, on faisait des fanzines, et une des personnes qu'on rencontre m'invite pendant 2 semaines à Marseille, c'était en 2015, parce qu'en fait sa copine fait un mémoire en fait, sur les centres de rétention administrative. Et il nous invite, en fait il invite plein de potes à lui, artistes qui ont des pratiques différentes, l'idée c'est de pendant 2 semaines de rentrer dans le centre de rétention, de rencontrer les gens séquestrés, et de faire et au bout de ces 2 semaines, dans un café associatif, de présenter ce qu'on a vu, quoi. Donc voilà, moi, c'est comme ça, en fait, que je tombe sur le truc. Moi, quand je tombe sur ça, je tombe des nues aussi. Enfin, je suis prostré, je sais pas quoi écrire, c'est trop violent. Mais en fait, au fur et à mesure, ben, je commence à en parler dans mes textes, à faire des articles. J'habitais à Paris. Puis après, j'arrive à Montpellier, je vois qu'il y a le centre de rétention de Sète. Et je me dis, allez, j'ai envie d'essayer d'en faire un livre. Voilà, un peu le truc. Et en fait, au début, ma démarche, c'était j'allais dans le centre de rétention de Sète, je rencontrais les gars enfermés, et j'allais direct dans la rue, en fait, raconter, enfin dire publiquement, quoi, à voix haute, les propos des gens que j'avais rencontrés. Et j'avais pris contact avec les assos du coin, donc c'était RESF, la CIMAD, principalement, et plein d'autres assos, qui m'avaient filé des flyers, qui déjà militaient un peu sur les centres de rétention. Et donc, je donnais des flyers. Et à partir de ça, en fait, de ce projet de livre, et parallèlement à côté de ça, est né une sorte de collectif de lutte contre le centre de rétention. Bon, voilà. J'ai un peu débordé ta question.
Non, mais c'est carrément. Parce que, du coup, ton texte, comme on l'a vu, c'est vraiment des propos bruts. Enfin, c'est ce qui est même dit par Pierre Siméon.
Jean-Pierre Siméon.
C'est vraiment ça. Il le dit, lui, dans son titre. Jean-Pierre Siméon, ouais, c'est ça, il dit attendez que je vous retrouve la phrase. Vous allez entendre une parole nue, sans excuse, sans précaution, vraie parce que nue. Et c'est vraiment ça. Et en fait, ton travail, donc tu as fait plus un travail de montage, de restitution de la parole. Est-ce que c'est, j'imagine que c'est pas un travail facile de restituer des paroles qui sont déjà à recevoir aussi cette parole-là qui est très dure. Mais est-ce que tu as eu des difficultés à mettre des mots sur... Enfin, j'imagine que tu as essayé de remettre presque mot pour mot, mais c'est difficile parfois de retranscrire une parole qui n'est pas la tienne, avec toutes les... J'ai peur. Les difficultés que ça peut impliquer de se dévoiler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, et arriver à retranscrire toute la vérité que ça... Ça implique ça.
Ben complètement, ouais. Moi, à la base, le premier truc que je voulais faire, c'était, quand je les rencontrais, leur proposer d'écrire des trucs
que ce soit eux qui
pour moi transmettre, voilà, parce que ça pose problème. Enfin, ce livre pose problème, que ce soit moi qui signe une écriture de gens des premiers concernés. Ouais. Moi, on va dire, je me positionne en tant qu'allié là-dedans. Je suis pas le premier concerné du tout, donc ça pose problème. En plus, en tant que blanc, par rapport à des personnes non blanches. Donc voilà, vraiment la question est là. C'est pas hyper résolu dans ce livre, ça pose toujours problème. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à chaque fois, ils me disaient, nous, on veut pas écrire, on veut pas. Parfois, il y en a qui écrivaient pas français et tout ça. Toi, c'est ton taf, vas-y, c'est ok. Enfin, vas-y, fais un livre quoi. Donc ça s'est fait un peu comme ça. Moi, j'avais toute cette matière, je savais vraiment pas quoi en faire. Je ne sais vraiment pas comment faire. Je suis tombé sur Reznikov, sur l'Holocauste de Reznikov. Je me suis dit, ben, c'est trop bien. Enfin, franchement, ben, je vais employer sa méthode, son cadre. Après, j'ai débordé, j'ai modifié des trucs. Et en fait, ça venait. Reznikov m'a permis de répondre à des choses. C'est-à-dire que, oui, ça pose problème. Comment retranscrire
l'atmosphère, la parole, le propos, le côté, enfin voilà, le vécu en fait de ça. Et je me suis rendu compte que ce qu'on pourrait appeler, je sais pas, une forme de neutralité journalistique ou la neutralité de la prose n'était pas du tout neutre en fait, dans le sens où elle ne retranscrivait pas. Alors on peut, en traitant de manière un peu poétique la prose, on peut quand même. Mais il fallait pour moi utiliser, voilà. Et puis en plus c'était mon outil, quoi, l'outil poétique. C'est pour ça que Reznikov, ça m'a parlé ce qu'il faisait, parce que moi j'utilise, donc je change aucun mot. Je n'utilise que leurs mots. Juste, je fais des retours à la ligne, une versification qui permet de créer de l'espace aussi dans la page et de faire vivre quelque chose. Je travaille la ponctuation et je trie, en fait. Je trie, je sélectionne. Et c'est en cela aussi que, voilà, je veux dire, je trahis en un sens obligatoirement la parole, parce que c'est moi, pour le coup, qui décide ce que je retiens, ce que je ne retiens pas. J'ai décidé d'enlever tous les propos qui relataient des voyages qu'ils avaient pu traverser. L'idée, c'était vraiment que les personnes concernées, que les propos des personnes concernées relatent ce que l'État français fabrique, quoi. Que ce soit leur vision qui parle des crimes de l'État français, quoi. Voilà.
Moi, je trouve ça déjà... Enfin, c'est fou, ne serait-ce qu'une seule phrase sur une page, en fait, tout de suite, c'est quelque chose qui résonne énormément, je trouve. Mais... Donc, tu fais quand même un travail de montage, puisque, comme tu l'as dit au début, tu as, tu as fait presque trois parties. Enfin, ouais. Tu as segmenté les propos que tu as recueillis en trois parties. C'est des titres de parties, donc j'ai lu quelque part que c'était des parties pris, mais que ça relate comme, ça fait presque une étape, entre guillemets, du cheminement que peut faire un individu qui est séquestré donc dans ces lieux. Et donc, tu as la première partie, comme tu disais, arrestation, séquestration et déportation. Il y a un truc qui me choque, mais du coup, peut-être que le collectif pourra rebondir dessus. C'est notamment, enfin, en fait, à chaque fois, c'est vraiment le côté arbitraire. Le côté, ça dépend à chaque fois si la personne est. Le policier en l'occurrence est bien luné, quoi. La question de l'arrestation ou la question de que ce soit des conditions de vie, à chaque fois, ça dépend c'est totalement aléatoire. Ils savent jamais où ils vont mettre les pieds, et que ce soit s'ils vont se faire arrêter du jour au lendemain, ou que ce soit même s'ils vont se faire déporter. Il y avait vraiment, en fait, c'est la totale ils savent pas du tout ce qui va se passer dans les jours à venir. Et puis du coup, ça met la personne dans une totale vulnérabilité, enfin la personne, elle est totalement fragile, quoi. Et je trouve que ça ressort vachement bien dans ton texte. Mais ça, ils t'en ont parlé, j'imagine, oui, parce que ça ressort dans ton texte, mais de cette incertitude perpétuelle dans les personnes que tu as rencontrées. Et j'imagine que ça pose aussi des problèmes vis-à-vis des personnes, de leurs proches aussi.
Bien sûr, leur famille. Parfois, il y en a qui sont là depuis 20, 25 ans, qui ont de la famille, qui ont tout, un boulot, qui perdent tout ça et qui se font déporter du jour au lendemain, pendant la nuit. Et où ça, c'est en fait, c'est ce qui fait que tous les gens que j'ai rencontrés qui étaient allés en prison avant, parce qu'il y en a pas mal en fait qui vont en prison, et dès la sortie de la prison sont transférés directement dans le centre de rétention pour tenter de pouvoir les déporter. Et donc, ce qu'ils me disaient, c'est que c'est pire que la prison, parce que c'est de la torture. Enfin, c'est des lieux de torture psychologique, quoi. Et si on compte en plus toutes les violences policières qu'il y a à l'intérieur, c'est pire que la prison, notamment pour cette incertitude de pouvoir être déporté n'importe quand. En plus, les soins, les médecins... alors, certains jouent plus ou moins, collaborent plus ou moins avec les policiers ou pas, mais des médecins qui ne fournissent pas du tout les soins nécessaires à certaines personnes, des gens qui ont des troubles psychiques, enfin, plein de choses qui, même pour des maladies, certaines personnes qui ont des médicaments qu'ils doivent prendre ne peuvent plus les prendre en centre de rétention. Enfin, c'est la constitution, enfin voilà, c'est des pratiques, c'est le traitement d'une sous-humanité.
Ces centres, ils sont régis quand même par une législation. La question, c'est est-ce qu'il y a des avocats qui, parce que vous parliez de la CIMAD, etc., donc je suppose qu'il y a des avocats qui ont le droit de les rencontrer, voire de les défendre pour certains.
Complètement, ça appartient au droit administratif, ces centres de rétention administrative. Mais qui, en fait, quand il y a 3 mois de séquestration, c'est très proche d'une peine de prison, quoi. Mais ça reste de l'administratif, et donc, oui, il y a... Bon, après, je ne suis pas hyper calé sur la législation et tout ça, mais oui, en fait, d'emblée, il y a une association, en fait, dans chaque centre de rétention. Et selon les associations, t'en as qui collaborent plus avec l'État, d'autres qui sont plus militantes. La plus militante reste la CIMAD, quoi.
Ouais. Donc là, c'est vrai que enfin, moi, je perçois ça comme ça. Vous êtes dépositaire d'une partie de la parole de ces personnes, mais le lieu, c'est parce que bon, on parle de crachats, de choses comme ça, ce qu'on a entendu, mais le lieu, il est comment ? Le lieu de pas les chambres, etc. C'est sommaire, c'est plutôt concentré sommaire, c'est comment ?
Alors ça dépend des centres de rétention, il y en a plusieurs. Ben, en fait, par exemple, celui du Ménil-Amelot est hyper flippant parce que c'est vraiment c'est une esthétique du camp de concentration.
Parce que l'architecture, c'est important.
Totalement. Ben, au Ménil-Amelot, c'est ce qui m'a choqué le plus quand je suis arrivé devant. Il fallait qu'on traverse un champ de boue et tout ça. Et au niveau de l'esthétique, c'est ça. Et après, à l'intérieur, ben, nous, on n'est jamais rentré dedans. Parce qu'on n'a pas le droit, il y a juste les députés et les journalistes qui peuvent rentrer dedans. Et donc, ben, en fait, c'est des couloirs, c'est réparti par couloirs avec des chambres partagées, où tout le monde peut communiquer, en fait, il n'y a pas d'intimité. Et donc ça pose de très gros problèmes de violence interne, quoi. Le système en lui-même, par l'enfermement, produit de la violence en interne, des gens entre eux séquestrés, quoi. Parce qu'il y en a qui... Voilà. Bah, voilà. Enfin,
Et au Ménil-Amelot, il y a les pistes qui sont à côté. Donc ils entendent aussi les avions. C'est aussi très flippant.
C'est pareil.
C'est le centre qui est le plus violent de tous les centres de rétention.
Et d'ailleurs, il y en a deux, là-bas.
Vu qu'il y a... La CIMAD, justement, cette année, s'est retirée, à un moment donné, de ces interventions à cause des violences qu'eux-mêmes subissaient. Et par l'encadrement administratif et par les personnes détenues qui craquent, quoi, qui ne peuvent plus, qui sont. Donc, je crois que c'est le plus difficile de tous.
J'ai vu un article sur celui de Lyon, qui a l'air assez, assez difficile aussi, enfin, énormément de plaintes.
Et il y en a un deuxième qui a été créé à Lyon. Là.
Ouais. C'est Lyon 2, justement. Oui.
Et qu'en est-il des femmes, parce que là, ça, je vous disais bien que d'autres, les femmes et les enfants, comment ça se passe?
Alors, les femmes.
Est-ce que je peux rajouter à la question? Vous avez parlé de personnes non blanches. C'est uniquement des gens venus d'Afrique?
C'est des Noirs et des Arabes. Parce que les contrôles se font au faciès, dans la rue. Et les policiers, donc, arrêtent.
Et parce que c'était pour les déporter en Afrique, j'imagine.
C'est pour les déporter parce dans leur pays dit d'origine.
Oui, oui, mais j'imagine que dans d'autres CRA, il y a des gens asiatiques, par exemple.
Alors, ça, j'en ai jamais entendu.
Mais peut-être pas à 7, parce que ça doit être plus pour.
C'est trouvable sur internet, ça, il y a des rapports de ce qui s'est passé dans les CRA les dernières années. Moi j'ai lu un rapport 2017 et il reprenait, il y avait carrément des stats sur les origines des personnes qui sont enfermées. Mais grande partie c'est quand même albanaise, il y a pas mal de gens qui sont d'origine albanaise, et sinon c'est des personnes du Maghreb et ensuite plutôt d'Afrique subsaharienne, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui sont asiatiques par exemple. C'est très très mineur.
Enfin, des Irakiens, des Afghans aussi.
Oui, pardon.
C'est ça que j'appelle l'Asie.
Oui, d'accord. Oui, non, il y a aussi, bien sûr.
Oui, pardon. Non, moyen.
Mais en tout cas, c'est trouvable sur internet, ça, c'est listé, on peut voir.
Oui. Merci. Oui, alors les femmes sont aussi séquestrées. Ouais. Les femmes sont aussi séquestrées. Il y en a moins. Que des hommes, mais elles sont aussi séquestrées, et des enfants aussi. Et ça, c'est illégal. Et l'État français, qui, est illégal de ce côté-là, quoi, en France, et aussi à Mayotte. que je considère, je dis à Mayotte, parce que je considère comme, comme une colonie, hein, Mayotte. Bon, enfin, c'est des pratiques coloniales. Il y a deux avocates toulousaines là, qui reviennent, qui étaient pendant l'opération Mombouchou, qui sont revenues totalement dépitées de la situation tragique qu'il y a là-bas. Donc c'est là-bas où il y a le plus d'enfants enfermés dans les centres de rétention.
Ce soit majoritairement des hommes, c'est aussi parce que c'est la personne souvent qui va ramener l'argent, ou les femmes vont se retrouver en difficulté, vont pas réussir à subvenir à leurs besoins, donc vont devoir elles aussi quitter. C'est aussi une stratégie de prendre les hommes du foyer.
C'est ce qu'ils font souvent.
Mais les camps, ils sont où en fait, ceux qui sont pour les femmes, les enfants, si tu veux.
Ben alors là, il s'est avéré que où je suis allé, c'était, il y avait, 7, il est tout petit, c'est 28 places. Et donc voilà, il n'y avait pas de couloir femmes. Mais à Marseille, par exemple, il y a des couloirs femmes. En fait, dans plein d'autres centres, quoi. Je crois qu'à Lyon aussi. À Metz aussi. À Nîmes aussi. Ouais.
Et du coup, quelles nouvelles vous avez de ces personnes qui sont dépositaires des témoignages? Est-ce que vous avez des nouvelles, des liens?
Alors. J'ai eu des nouvelles. La personne, par exemple, qui dit « Moi, je veux être déporté en Suède et en Irak », il préférait, mais il flippait, en fait, une fois arrivé en Suède, qu'il soit déporté en Irak. Et en fait, on a un peu échangé, mais très brièvement après. En gros, il a pu, en Suède, partir. Il ne s'est pas fait choper par les flics en Suède. Donc, voilà, il a pu rester en Suède. Une personne, par exemple, qui avait été ramenée en voiture, ça se faisait très souvent de 7, il est ramené. Moi aussi, je commence à parler le langage de l'État. Oui, parce que c'est tout un questionnement aussi de... Je fais une petite parenthèse qui a été très importante avec le collectif de lutte et là, dans le livre, de sortir du langage adoucissant de l'État, quoi. Qui parle de reconduite à la frontière, qui parle même de rétention. Et l'enjeu, ça a été de dire, non, comment redonner... comment utiliser les mots qui correspondent à la réalité. Donc c'est pour ça que je choisis séquestration, c'est pour ça que je choisis déportation et pas reconduite à la frontière. Quoi. Donc par exemple, il reconduit...
Ça reste, hein.
Ah ben on a la République en nous. Hein, ça. Ils déportaient jusqu'à la frontière italienne et en fait, il y a l'exemple d'un gars qui, 3-4 jours plus tard, était déjà revenu... en France, voilà, mais très très peu de contacts, on garde très très peu de contacts, en général, soit ils sont déportés, et là, ou sinon, s'ils sont relâchés,
ils sont complètement clandestins.
C'est ça, ils n'ont aucun intérêt à garder contact avec nous. Il faut qu'ils se cachent, quoi.
Et on a plein de gens qui sont clandestins, ce qu'on appelle les ni expulsables, ni ce qu'on appelle ni dans les assos, ni expulsables, ni intégrables. Et pendant un moment, parce que l'administration ne veut pas justement leur accorder un titre de séjour pour qu'ils s'intègrent. Et ces gens-là deviennent complètement clandestins et ça peut durer des années.
Et la question des mineurs aussi. Qui ont certains mineurs donc qui ont eu des aides de l'État. À Montpellier, il y a eu ça pendant un bail. Ils avaient des aides de l'État. Ils se faisaient arrêter. On leur faisait des tests osseux. Et les tests osseux, il y a une zone d'incertitude de 3 ans. Et donc à chaque fois, ils choisissaient la barre haute pour dire en fait non, il a menti. Ce sont des majeurs. Et ils leur demandaient de rembourser. Donc ils les mettaient dans un premier temps en prison. Et leur demander de rembourser l'argent qu'ils avaient touché.
Oui, la prise en charge par là.
C'est ça. Et tous les départements ne faisaient pas ça, mais le département de l'Hérault faisait ça, par exemple.
Ici aussi, ils sont bons pour ça.
Donc voilà, aussi, ouais.
Vous avez parlé de quelqu'un qui avait fait 5-6 jours en centre de rétention. Ça veut dire que la personne, elle est sortie, on la rechoppe.
Oui, c'est
totalement.
Oui, parce qu'en fait, ça veut dire qu'une partie des gens qui sont là, de toute façon, ils vont rester, une fois sortis, une fois qu'ils ont fait les 3 mois, ils ressortent et on les reprend et on les remet. C'est ça, c'est leur vie. C'est d'une absurdité sans nom.
C'est d'une violence.
Est-ce qu'il existe des statistiques sur les personnes qui sont dans cette
catégorie ils sont ni de l'un côté ni de l'autre. Parce que ça serait important de savoir, en fait, ces personnes qu'on exclut de toute possibilité, en fait, qui sont dans la clandestinité comme ça.
C'est 30%.
30%? Mais 30% de combien?
De ces 30% qui auraient été.
C'est de qui le chiffre, c'est pas.
Et peut-être, tu parles de statistiques, peut-être rappeler le livre, l'ouvrage qui est publié chaque année par les associations en centre de rétention, notamment la CIMAD. Ouais, plusieurs assos, ouais. Et qui chaque année, donc ça se trouve sur Internet, sur le site de la CIMAD, et ça publie tous les chiffres, enfin, la plupart des chiffres statistiques sur l'enfermement des centres de rétention et aussi les LRA. Il n'y a pas trop encore de textes et de trucs sur ça, mais en fait, il y a les CRA et les LRA, qui sont des lieux de rétention administrative, et qui sont vraiment ça. En fait, on ne sait pas ce qui s'y passe. C'est des zones qui... ils peuvent décider, en fait, que n'importe quelle zone... Ils peuvent décider cette zone, c'est un LRA, pour quelques heures, 24 heures, et la changer. Après, il y en a des fixes aussi. Et voilà. Alors, c'est un gros problème, parce qu'on ne sait pas ce qui s'y passe. En tout cas, des gens s'y font séquestrer, et déporté à partir de là. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus, mais il y a ces zones-là qui existent aussi, quoi.
Il y a aussi, sans parler directement des CRA, par exemple, il y a la police aux frontières, qui existe, peut-être certains d'entre vous ne savent pas. On a la police aux frontières à Chenôve. Vous avez des gens qui rentrent, qui sont convoqués à la police aux frontières à Chenôve, et qu'on ne voit jamais ressortir. Qui repartent de la porte par la porte derrière et qui se retrouvent au CRA à Metz. Et là, on essaye, les associations, les avocats, essayent de les faire ressortir. Voilà, ça se passe aussi comme ça par l'intermédiaire de l'action de la police aux frontières. Justement, les gens qui vont. On a eu une mineure comme ça qui était convoquée à Chenôve à la police aux frontières avec les gens qui s'occupaient d'elle parce qu'elle habitait dans une famille. Elle n'est jamais ressortie. Elle a réussi à communiquer. Et on a su qu'il l'embarquait pour Metz. Et après, donc, il y a eu une action qui a permis de la faire ressortir. Mais voilà, hein, elle n'a pas été arrêtée comme ça dans la rue, comme certains. Elle était carrément convoquée à la police aux frontières et elle est ressortie de l'autre côté.
Parfois, c'est des convocations en préfecture aussi.
Oui.
Ils se font convoquer en préfecture et ils se font prendre par la police et mis au centre de rétention.
Pour le département aussi, pour les mineurs. Ni expulsables parce que il y a des pays avec lesquels il n'y a aucun accord. Par exemple, l'Afghanistan, vous ne pouvez pas expulser quelqu'un en Afghanistan. Il n'y a aucun accord par rapport à ce gouvernement scélérat là-bas en Afghanistan. Ils ne peuvent pas partir. Il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de liaison aérienne avec l'Afghanistan pour le moment. Donc, vous avez d'autres pays, des pays comme le Soudan, que ce soit le Soudan du Nord, le Soudan du Sud, en ce moment, il n'y a pas non plus. Ils ne peuvent pas les renvoyer au Soudan. Il y a d'autres pays, les républiques là, qui sont les Azerbaïdjan et tout ça, par là, c'est pareil. Il n'y a aucun accord avec ces pays-là.
Je pense que le Mali refuse.
Pour le Mali, depuis les putsch là qu'il y a eu donc au Mali, au Burkina et au Niger, c'est pareil. Il n'y a plus de possibilités.
Et c'est ça parce que.
Pourquoi ils ne sont pas intégrables?
Eh bien parce qu'on appelle Nini parce qu'on leur refuse systématiquement un titre de séjour.
En gros, moi je pense qu'ils sont intégrables.
Oui,
mais pour l'administration, voilà. ils ne sont pas régularisables.
Voilà, ce n'est pas régularisable. Ni possible de les renvoyer, ni avoir des papiers.
Mais quelle est la solution? Le motif administratif qui est donné pour le Maroc, quel est le motif?
C'est-à-dire que les gens font leur demande et puis bon, ben. De plus en plus, la préfecture d'ailleurs, ça dure, depuis les délais sont de plus en plus longs. Il y a des gens qui font des demandes d'asile et des demandes de séjour. Et maintenant, les délais, ça peut aller jusqu'à 2 ans avant que la préfecture daigne répondre.
Il y a les délais, mais c'est aussi des gens qui sont venus en France sans avoir fait une demande de visa.
Ou ils sont arrivés avec un visa de tourisme.
Oui, enfin, voilà. donc on considère qu'ils sont en situation irrégulière. Ils ont fait une demande d'asile qui a été refusée, rejetée, et après, voilà.
Leur pays n'est pas sur la liste aussi des pays considérés comme en guerre. Mmh, l'Albanie, par exemple, ne rentre pas dans
l'Albanie. Alors, il y a aussi ce qui se fait, enfin, si on est un petit peu au courant des choses, maintenant, depuis un certain nombre d'années, il y a ce qu'on appelle les gens qui sont dublinés, c'est-à-dire c'est un arrêté qui avait été fait par un moment, on a appelé ça l'arrêté du Dublin. On considère aussi que les gens qui sont entrés, par exemple, sur le territoire européen, par un des pays européens, mais qui n'ont pas fait de demande d'asile dans ce pays où on a pris leurs empreintes, et qui ensuite sont allés dans un autre pays espérant pouvoir avoir l'asile dans ce pays, notamment la France, l'Angleterre, la France n'est plus partie de l'Europe, enfin bon, ils ont une politique qui n'est pas très simple. Et donc l'Espagne, l'Italie, etc. Donc s'ils sont arrivés là et qu'ils veulent faire une demande d'asile dans un autre pays, donc là, il y a tout le fichier, le fameux fichier là, qui est le fichier informatique et tout, qui, quand ils font une demande, donc par exemple en France, à Dijon, on va aller voir où est-ce qu'ils sont arrivés. Et s'ils sont arrivés en Italie, on leur dit, vous retournez en Italie. Voilà. On leur met une QTF et on leur dit, vous partez en Italie, c'est le premier pays où vous êtes arrivé.
Et donc,
voilà. Et si les gens ne veulent pas rester en Italie, ben, ils reviennent.
C'est ça. Et par rapport au laissez-passer consulaire, en fait, il faut que le pays dit d'origine accepte, donc donne un laissez-passer consulaire. Et il y a certains pays qui refusent aussi. Mais ce qui se passe, c'est que l'État français fait des menaces sur des aides, sur le refus de visa. Donc ça a créé des gros problèmes avec l'Algérie, par exemple. Des gens, des potes, enfin leur famille, ne pouvaient plus leur rendre visite d'Algérie à cause de ça, quoi. Donc il y a des négociations.
Et c'est devenu à nouveau compliqué aussi maintenant avec la Tunisie. On entend parler beaucoup de la Tunisie sur les problèmes du nouveau gouvernement qui est installé déjà depuis un petit moment, mais c'est de plus en plus restrictif et sur la Tunisie ça commence à poser de gros problèmes aussi.
Et aussi l'autre truc, c'est que quand des gens qui ont été séquestrés en centre de rétention, la préfecture et la PAF savent qu'ils ne peuvent pas obtenir de laissez-passer consulaire, ils sont quand même reséquestrés. Parce qu'il y a tout ce truc de dire non, mais c'est pour tenter de les déporter et tout ça. Mais on se rend bien compte qu'en fait, c'est aussi des politiques de découragement, de dissuasion, de torture psychologique, de chiffres pour montrer politiquement aussi. Enfin, plein de trucs, quoi.
Bah, merci Mathieu. C'était une brève une présentation, mais c'était largement. Enfin, pour en discuter après, en tout cas, on t'a fait venir surtout. Parce que déjà ton livre est très intéressant, mais aussi parce que ton livre résonne aussi avec l'actualité dijonnaise, et en fait c'est aussi pour ça que on a fait venir le collectif Anticra de Dijon. C'est parce que, donc, je pense que vous l'avez plus ou moins compris, il y a un projet de construction, de lancement de CRA, donc qui va se passer à Dijon, et donc je vous laisse présenter ça plus amplement que moi, avec moi.
Déjà, je voulais juste savoir si tout le monde avait bien compris ce qu'était un CRA, du coup, parce qu'au début, on a parlé de définition, mais on n'a pas défini, mais j'imagine que toute la discussion qu'il y a eu, il n'y a pas besoin d'éclaircissement. Je voulais juste assurer. De ça, ensuite, ce soir, là, on est plein, en fait, du collectif anti-CRA de Dijon. Et l'année dernière, automne dernier, on a eu vent de cette construction d'un CRA qui va être fait à Longwy, sur l'ancienne base aérienne de Longwy, entre autres, et à côté de l'école de gendarmerie, qui est un potentiel aéroport, etc., pour permettre de mieux déporter, justement. C'est souvent le cas, les CRA sont souvent construits à côté d'aéroports. Et donc, en fait, le CRA de Dijon s'inscrit dans une politique, dans la nouvelle loi, la loi Darmanin, qui était précurseur de la loi immigration qui arrivait après. Et donc la loi Darmanin a fait en sorte qu'on passe à de 1800 places de CRA en France à 3000. Et donc a demandé à ce qu'il y ait 11 nouveaux CRA qui soient construits sur la totalité du territoire. Et dont certains, ils avaient déjà d'ailleurs des CRAS, mais il y en a un deuxième qui va être construit. Enfin bref, il y a des endroits où ça va être super. Et du coup, Dijon n'avait pas encore de CRAS, c'était Metz le plus près, en tout cas, et Lyon. Et donc, à Dijon, il y a un projet où il y aurait 140 places dans le CRA, donc c'est un assez gros CRA quand même. Et a priori, ça serait pour accueillir aussi bien des hommes, des femmes que des enfants, dans ce que moi j'ai compris. Et donc, l'idée, ça serait qu'en 2027, le projet soit livré, comme on dit. Et puisse accueillir, recevoir, je ne sais pas comment on dit, séquestrer les premières personnes. Voilà. Et du coup, il y a eu plusieurs personnes qui ont voulu s'inscrire dans la lutte anti-CRA qui existe en France depuis plusieurs années, notamment à Lyon, notamment à Toulouse, notamment, enfin voilà, dans plus à Paris, et même dans une lutte anti-CRA qui existe dans tous les pays européens et même dans le monde entier. Et donc à Dijon, il y a eu plein de d'associations, de personnes individuelles, de collectifs qui ont répondu présent un peu à l'appel. Et donc au mois de février, c'est ça, on a fait notre première AG. Et il y avait vraiment plein de personnes de divers horizons, et c'était très riche et vraiment intéressant. Et je ne sais pas si je peux me permettre de peut-être citer certaines associations comme la CIMAD notamment, mais pas que, enfin, il y avait Solidaire, LFI, enfin voilà, il y a eu toutes sortes de collectifs qui nous ont rejoints, collectifs Antifa, enfin voilà. Et donc l'idée, c'est d'arriver justement à créer une coalition suffisamment forte pour faire vraiment poids face à la construction de ce CRA. Est-ce que tu
veux prendre la suite? Ouais, je peux un peu détailler comment ça fonctionne. Donc on a une AG tous les mois. Donc c'est une AG où on rassemble tout le monde qui sont concernés, enfin tout le monde qui participe à cette lutte. Donc et sinon on est répartis en petits groupes de travail. Et il y a pas mal de choses qui ont été pensées pour cette AG. Par exemple, il y a la traduction pour permettre à des gens qui ne sont pas en totale maîtrise du français d'y assister. C'est-à-dire que du coup les groupes de travail, c'est un groupe par exemple juridique qui va se pencher plutôt sur les aspects les potentiels recours qu'on peut poser et l'avancement un peu des travaux. Donc on sait qu'il y a eu un appel d'offres et on ne sait pas exactement encore qui a répondu, mais bon, on suit ça de près. Il y a un groupe communication donc qui va faire ses affiches, qui va prendre des textes qui sont validés en AG. Et bon, il y a ceux aussi de bons événements qu'on a organisé aujourd'hui, cette rencontre. Voilà, donc on essaie d'être présent. Il y a pas mal de... Enfin, un grand objectif, c'est quand même d'informer. Donc il y a vraiment un manque d'information. En fait, informer les prochains voisins du CRA, par exemple, mais aussi tout le monde sur la ville de Dijon, c'est vraiment quelque chose qui est tenu, qui n'est pas médiatisé, qui est tenu un peu secret. Et sinon... Ouais, on a aussi donc l'objectif de à un moment donné se mobiliser, mais en fait ça, dès qu'on parle de mobilisation, ça, on parle de, enfin, on rentre dans un terrain où il y a des personnes qui peuvent être, qui sont parfois concernées par les craques, donc c'est toujours un peu compliqué juridiquement, on va prendre trop de risques, etc. Voilà.
Tu pourrais peut-être préciser. Oui. La prochaine assemblée générale.
Oui, bien sûr. La prochaine assemblée générale, c'est lundi prochain, le 27 mai. À 18h pour les nouvelles personnes qui veulent venir. Donc il y a un petit moment avec ces nouvelles personnes pour rendre compte de où on en est dans les décisions, les informations, etc. Et ensuite, et qu'il y ait à la maison commune des Lancières.
C'est le 4 rue Amiral Pierre.
4 rue Amiral Pierre. Voilà, et sinon il y a surtout un prochain rendez-vous qui est préparé depuis un moment, qui est le 1er juin, qui sera. Dans un rendez-vous, enfin une après-midi très intersectionnelle, parce que c'est à la fois la Pride et la fête des Lancières, donc c'est un peu plein de choses, mais donc parce que c'est aussi des mouvements qui soutiennent l'anti-CRA. Et donc ce sera statique, et ce sera Darcy pendant une bonne partie de l'après-midi en un stand pour d'information surtout, mais aussi pour montrer que l'anti-CRA existe.
Le groupe qui organise ça
veut
rajouter quelque chose?
Ouais.
Moi, je pourrais peut-être rajouter, poser une question à Mathieu. Dans le groupe pour l'animation du stand de l'après-midi, du premier, on se demandait si on pourrait lire publiquement des extraits un peu comme de ton livre, un peu ce qu'on vient de faire.
Bien sûr, ouais, carrément.
Oui, tu donnes le
temps. Oui, ouais, pas de problème.
J'ai des questions par rapport à ce que vous venez d'expliquer. Le commanditaire, du coup, c'est l'État, c'est la ville,
c'est l'État.
Et donc les recours qui sont possibles, enfin, c'est quoi par rapport à ça, c'est,
J'ai l'impression qu'il y en a un qui a marché, c'était à Bordeaux pour nuisance du voisinage.
D'accord.
Ça l'a juste déplacé. D'ailleurs, donc ça a retardé les trois ans, mais ça. Donc, tout le projet a dû être repensé. Je crois que c'était un peu. Mais sur le fond.
Oui, c'est de mobiliser les gens pour dire non, on n'en veut pas.
Et sur les enfants, il y a peut-être quand même un recours, là, la torture, si c'est illégal.
Oui, mais là, c'est que ça n'empêche pas de construire le bâtiment. Bah, en tout cas, parler de ce qui se passe à l'intérieur, porter les témoignages des personnes qui sont à l'intérieur, c'est une première manière de dire ce qui se passe.
De prouver à l'État.
Et puis, je pense qu'il y a là, il y a une plainte qui vient d'exposer. On a touché sur la pause, pour violence policière. Contre les violences policières. C'est toujours au cas par cas, c'est difficile d'agréger.
Puis c'est ça, puis surtout, enfin. Dire que enfin, c'est pas parce que c'est légal, enfin c'est légal en fait, tout ce qu'ils font est légal, mais c'est criminel. Et voilà, juste arriver à réaliser ça en fait, c'est pas parce que c'est légal que voilà.
En fait, moi je trouve ça juste fou que ce soit légal.
Ben ouais.
Mais je sais pas si la torture c'est légal quand même.
C'est de la torture psychologique.
Mais ça, ça peut être trouvé,
ça. Ah ben ça, peut-être. Mais en gros, apparemment, je discutais avec une personne qui a écrit à la fabrique carte blanche. Et en gros, en fait, dans son livre, elle en parle. Elle dit qu'en fait, l'État, une fois que des pratiques violentes et illégales sont dévoilées, l'État se débrouille pour rendre ça légal. Et ça fonctionne comme ça, par étapes. Et en plus, il y a des lois sur l'immigration, tous les je sais pas combien. Enfin.
Il y a des journalistes télé, enfin, il y a des images qui ont pu être prises à l'intérieur des CRA, parce que je pense que ça serait pour annoter un peu, sensibiliser.
Alors ça, c'est très compliqué, parce qu'en général, enfin, les téléphones avec vidéo sont interdits, et donc il y a... Mais apparemment, on m'a dit qu'il y aurait des images, là, du CRA de Lyon.
C'est moi qui fais ça. En fait, je suis pas très sûre du truc des images.
Ok.
Je pense à l'article sur Mediapart qui est paru ce matin sur les violences policières, mais je crois pas qu'il y ait d'images.
Non, non, il y a pas d'images.
Il y a vraiment des témoignages absolument dégueulasses.
Il y a pas
de témoignages. Mais les députés, voilà, les députés et les journalistes peuvent s'y rendre.
Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, donc je me disais.
N'importe quand.
Ils se sont fouillés avant,
j'imagine. Il y a un député qui s'est rendu récemment et qui raconte il a porté une heure à la porte, le temps qu'on fasse un peu de ménage et de nettoyage. Mmh. Il est rentré dans une pièce, notamment. Il y avait visiblement des taches de son partenaire. Enfin, apparemment, on l'avait paroté à la porte le temps qu'on. C'est tout récent, je ne sais pas, je me rappelle plus, j'ai lu ce témoignage, mais c'est très récent. Parce qu'ils peuvent arriver avec leur écharpe et leur mandat de député. Ils ont accès à tous les lieux de privation de liberté, y compris les prisons, les gardes à vue, etc. Mmh. Donc, effectivement, ils peuvent l'exercer dans les CRA, mais voilà. On fait un peu de ménage avant de laisser.
Mais après, dans quelle mesure, bon, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais dans quelle mesure est-ce que c'est facile de discuter avec les personnes, enfin, elles sont accessibles aussi, visibles, enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi, pour justement discuter, être en contact direct avec les différentes personnes que tu as rencontrées.
Donc les personnes séquestrées à l'intérieur.
Ouais.
Ben, c'était en fait, si ouais non, ça s'est vraiment passé assez simplement. En général, elles étaient hyper contentes de pouvoir parler, déjà de pouvoir rencontrer quelqu'un, ne serait-ce que émotionnellement déjà. Bon, sur les, voilà, déjà juste un peu de soutien, de présence, des gens qui sont de leur côté, qui sont pas du côté de l'État aussi. Enfin,
je veux dire, t'as pu les aborder. Enfin, c'était. t'as pas été empêché justement par les flics ou quoi
de, ah si
bah, très... approcher, quoi, de pouvoir discuter avec eux.
Eh bien si, parce qu'en fait avec le collectif là de 7, le collectif Anticrat de 7, on a été ça a duré la lutte 2-3 ans quoi, après ça s'est émoussé, mais on a été 3 personnes du collectif à être interdites de visite dans le centre de rétention. Et c'est-à-dire qu'on a fait des courriers d'avocats et tout ça pour savoir et tout. Il n'y a jamais eu aucune justification. Donc en fait, ils font bien ce qu'ils veulent.
Mais t'as quand même pu justement discuter. En fait, ce que j'essaie de savoir, c'est comment t'as pu discuter avec eux sans que la présence policière soit trop contraignante pour arriver à justement à leur parler, quoi, à accéder à ces personnes. Quoi.
Oui, alors ça dépend des centres de rétention aussi. Ça allait, on était dans des parloirs fermés, ils étaient un peu loin. Bon, on sait jamais, enfin, on sait pas s'il y a des micros ou pas, etc. Mais Vincennes, par exemple, je sais pas comment c'est maintenant, mais en fait, Vincennes, c'était des open space avec les flics qui sont là, qui écoutent, donc beaucoup plus compliqué, quoi.
Tu disais que 7, en plus, géographiquement, c'était dans la ville. Enfin, j'imagine que ça joue aussi un truc de se dire qu'en fait, le centre de rétention est dans la ville, alors que la plupart des centres de rétention sont vraiment à l'extérieur, sur les zones d'aéroports, etc. Et je pense que ça doit jouer quelque chose, enfin, qu'il y ait justement la possibilité de pouvoir rentrer dedans comme ça.
Ben ouais, dans la mobilisation à 7, il y a eu plein de monde qu'on puisse mobiliser parce qu'on arrivait aussi, enfin c'était juste à côté du centre-ville, il y avait un théâtre à côté, il y avait tout, enfin on pouvait mobiliser vraiment beaucoup. Une personne du collectif a fait une grève de la faim en soutien à des personnes à l'intérieur en grève de la faim, ça a duré 15 jours, et les gens pouvaient se relayer, tourner. Le problème par exemple là dans le collectif Toulouse Anticra dans lequel je suis à Toulouse là, maintenant, ben, c'est à l'aéroport de Cornebarieux, le centre de rétention, c'est hyper loin du centre-ville, et pour la mobilisation, ben c'est plus compliqué, ouais.
C'est pas un hasard, en fait, les centres plus anciens, ils étaient souvent en ville, et en fait, maintenant, c'est pensé que ce soit éloigné, c'est aussi pour visibiliser ce qui s'y passe. Et bon, voilà, c'est sûr qu'on se demande, en fait, mais pourquoi on n'arrive pas à faire fermer ces endroits. En fait, c'est loin, c'est invisibilisé, il y a de l'impunité aussi de leur part. Des comportements qu'on peut avoir.
Et je me demandais s'il y avait des policiers que tu avais senti peut-être pas hyper ok avec ça.
Oui, bon, alors d'emblée, moi, je suis contre la police. Je tiens à le dire, je suis anticarcéral et contre la police. Non, mais je dis d'abord ça, mais je réponds à ta question.
Ça peut être un outil de témoignage.
T'as beaucoup de flics, ceci dit. Il y a beaucoup de flics qui étaient désespérés par cette situation, qui disaient c'est absurde, de toute façon ils reviennent. On n'est pas formé pour ce boulot parce que c'est du boulot de maton et eux, ils rêvaient pas de faire ça. Voilà ce que je peux te dire.
Parce que justement, c'était des policiers, entre guillemets, lambda, dans le sens où c'était pas des gardiens de la paix. Parce que normalement, c'est les personnes qui sont dans les prisons, enfin les... policiers qui sont en prison, c'est des gardiens de la paix, donc ils ont une formation pour. Mais là, c'était des policiers qui... Enfin, vu que c'est...
Ils n'avaient pas la formation.
Ouais, mais voilà. Vu que c'était... Tu dis que c'est des centres qui appartiennent à l'administration.
Ouais.
Donc c'est des... Enfin, il n'y a pas une dissociation en termes de poste ou de... Je sais pas quoi.
Ouais, je sais pas. Je sais que c'est la police aux frontières.
En tout cas, par rapport à Dijon, c'est juste à côté de l'école de gendarmerie.
Donc c'est ça.
Et c'est quelque chose qui se fait fréquemment. Comme ça, ça permet aux gens de pouvoir faire leur stage, de s'entraîner dans le train. Quoi.
Je me permets, avant que les gens commencent à partir, il y a une table un peu focus, il y a des petits tracts aussi que vous pouvez prendre pour aussi en distribuer autour de vous, bien sûr, de ce que c'est la lutte anti-CRA à Dijon. Du 1er juin aussi.
Avec les coordonnées du collectif pour ceux qui veulent nous rejoindre.
Et on peut faire tourner une liste mail pour les personnes qui veulent être informées. Et du coup, il y a une table avec des petites. Bonjour, merci. Où il y a écrit merci sur une petite boîte pour éventuellement si vous voulez participer.
Et pour rebondir sur l'idée des tracts, il y a aussi des tractages de prévus. Demain à 10h au Hall, jeudi prochain au Grésil à 10h et le matin de la mobilisation, le samedi 1er à 10h aussi. Donc si vous avez envie de vous joindre à ça, vous pouvez écrire sur la liste ou vous pouvez venir nous voir.
Voilà, je me supervise un peu pour couper ça parce que je voulais déjà commencer à partir. Je suis c'est pour. C'est pour voilà. De quoi?
Je n'ai pas fait le présentation du premier jour, qui avait quelque chose à dire. Mais je ne sais pas.
Je crois que c'était assez comme présentation. Je voulais rajouter le tractage prévu le matin.
Oui, super.
Et sinon, il y a toujours besoin de coups de main. Donc, ouais, si à la fin, vous voulez venir rejoindre le groupe qui organise ça. Et aussi, c'était très beau et vous avez très bien lu. Passage du livre, et donc si on part sur ce projet de lire des passages, pourquoi pas venir les lire à 14 heures, c'est un engagement.
Vous êtes combien dans le collectif à peu près?
On sait pas compter. Bonne question.
La première fois, on était beaucoup. La première fois, on était assez nombreux.
Mais on est au moins 30 à chaque année.
Ouais, je pense qu'on est au moins 30 à chaque
année. Avec un. Non, ça tourne donc. Ça veut dire qu'on doit.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a des gens qui étaient la première à le faire, donc qui ne pouvaient pas aider de façon concrète au niveau de l'organisation, mais qui, dès qu'il y aurait des appels à rassemblement, seraient mobilisables. Et en fait, ça, c'est super important, et du coup, je le redis, j'ai déjà dit en début de présentation, mais je le redis. Et aussi, en fait, avoir un CRA sur un territoire, ça change vraiment quelque chose, notamment pour les personnes, nos amis sans papier, les personnes. Migrantes, les personnes exilées, enfin bref, ça change vraiment quelque chose pour elles, parce que ça crée un climat très particulier, que la répression change vraiment, enfin ça va vraiment, c'est pas que un bâtiment qu'on n'a pas envie de voir construire sur notre territoire, quoi. C'est vraiment que ça crée un climat qui est beaucoup plus anxiogène, que répressif, enfin voilà, ça fait quand même quelque chose. Et ça, il faut en avoir conscience aussi. Et je pense que là où nous, on va essayer de jouer aussi, c'est avec la ville de Longwy, qui est donc c'est sur son territoire. Enfin, c'est sur son territoire. C'est-à-dire, c'est un terrain qui appartient quand même à l'État, je pense, parce que c'est l'ancienne base aérienne, c'est l'armée. Donc ça va être compliqué. Mais en même temps, ça va être une façon pour nous de jouer à ça. C'est avec ça, c'est que bah, en fait, les gens ne sont pas forcément au courant non plus. D'ailleurs, ça est mon vie, que c'est quelque chose pareil avec lequel on va pouvoir essayer de jouer. Et puis, il y a quand même une partie. Est-ce que vous pouvez couper si je me trompe? Il y a une partie aussi sur des zones qui ne sont pas construites pour le moment, qui n'ont jamais été construites. Ou c'est que sur des zones déjà construites?
Bah, il y avait des chenilles là.
De quoi?
Je pense que c'était déjà des zones utilisées. Hein,
Ce qu'on essaie de voir, s'il y avait moyen aussi de jouer sur la carte de vous allez bétonner un endroit. Et enfin voilà, il y avait un peu. On essayait de voir un peu toutes les cordes qu'on pouvait tirer.
Là, ce serait plutôt que cette zone inondable et que peut-être ce serait compliqué ça, de construire. Ouais. Mais bon.
Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on se mobilise en plus. Et puis après, il faut savoir que, bah, effectivement, quand il y a des cracks qui sont construits chez nos voisins belges ou même à Paris ou des choses comme ça, il y a vraiment des gens qui vont devant les cracks très régulièrement et en fait qui s'initient leur présence avec des mégaphones, des machins, des bidules. Enfin, il y a un peu un truc de devant, faire des sit-ins devant les cracks dans les aéroports, etc. Il y a un peu un truc de dire que dès qu'on voit quelqu'un qui a déporté, c'est de se lever dans un avion, enfin de se lever quand la personne est dans l'avion. Il y a plein de techniques un peu comme ça, et malheureusement c'est des trucs qui se passent après, mais qui sont aussi importantes de relier, etc. Et voilà. Je sais pas si les gens du collectif veulent rajouter des choses importantes à dire qu'on a oublié, qu'on a redonné.
Bien, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques à faire, ouais, comme elle le dit, elle le mime si bien. je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vous remercie beaucoup, Mathieu, d'être
merci là. Pour l'invitation.
C'était vraiment un très beau moment, comme tu dis, les lectures étaient très très belles. Pour finir cette soirée en beauté, on a prévu un petit apéro de remplir la liste mail aussi. Et voilà, vous pouvez évidemment prendre les livres de Mathieu qu'on a pris en pile pour qu'ils soient aussi diffusés chez vous et parmi vos proches. Oui, merci d'être fait le
carrément
le
chemin. Merci. Content d'être là pour soutenir la lutte aussi.
Merci beaucoup.
Prix Libre ou pas, et il y a la revue Z juste derrière. Il paraît que tu as pris Libre et la revue Z.